Cours de politique par le père Philippe Parimont.
La politique.
Le
Alors,
1er
c'est
juin 91.
une série de questions. Alors, je vais essayer d'y répondre rapidement. L'Église, en insistant sur la fécondité comme finalité du mariage, ne voulait-elle pas signifier que la fécondité est une finalité propre du mariage, même si elle n'est pas sa finalité ultime? En effet, l'amour d'amitié finalise, finalité ultime, non pas finalité ultime. La finalité ultime du mariage, c'est la gloire de Dieu, c'est pas l'amour des conjoints. Pas finalité ultime, finalité propre et spécifique. Finalité ultime du mariage existe en dehors de celui-ci. Tous les chrétiens ont comme finalité ultime la gloire de Dieu. Et selon le chapitre 15 de saint Jean, la gloire de Dieu, c'est le fruit de la charité fraternelle. Ceci, c'est pour tous les chrétiens, c'est pour toute l'Église. Et pour la communauté saint Jean en particulier. Spécialitaire. C'est vrai, puisqu'on est lié à saint Jean. Donc, faut comprendre que toute communauté religieuse implique comme finalité de glorifier le Père. Et glorifier le Père par la charité fraternelle. C'est par la charité fraternelle que cette finalité ultime se fait. Donc, dans le mariage, la finalité ultime, c'est glorifier Dieu par l'amour des conjoints. Ça, c'est très vrai. Mais l'amour des conjoints est la finalité propre du mariage. Ça, il faut bien insister là-dessus. Et la fécondité est une finalité seconde, pas première. Essentielle, mais pas première. C'est pas ce qui spécifie. Parce qu'il ne peut même pas y avoir d'enfant. Et le mariage peut être, au point de vue du sacrement, avoir toute sa valeur de sanctification. Très précis là-dessus. En effet, l'amour d'amitié, finalité ultime du mariage, existe en dehors de celui-ci. Et peut même être plus parfait entre des personnes consacrées à Dieu. Oui, mais c'est pas du tout la même chose. Je ne peux pas dire que la finalité propre de la vie religieuse, ce soit la charité fraternelle. Vous voyez? La charité, c'est quand même la sanctification. Et la gloire de Dieu, et donc la vie contemplative, qu'on soit vie apostolique ou vie contemplative pure, c'est toujours la contemplation, la finalité propre, première. Ensuite, la charité fraternelle, qui reste essentielle. Dans le mariage, la finalité propre, c'est l'amour des conjoints. Et je me souviens de ce religieux, je ne sais pas qui, parce que c'est pas ici. C'est du côté dominicain. Qui me disait, je suis entré dans l'ordre pour avoir des frères. Je lui dis, je suis entré dans l'ordre pour me donner à Jésus. Et c'est. Alors qu'est-ce qui est le plus vrai? Ça me disait, il n'y a pas d'opposition. C'est bien évident, il n'y a pas d'opposition. Mais il y a un ordre. Entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain, il y a un ordre. Ça, il faut le respecter. Je ne peux pas aimer le prochain sans aimer le Christ. Et la vie religieuse implique cette consécration première à Dieu. Ça, c'est capital. Et parce que il y a un ordre entre les deux préceptes. C'est la même charité. C'est la même vertu théologale, mais il y a un ordre. Tandis que vous devez dire que la fin propre du mariage, ça ne supprime pas ce premier amour à l'égard de Dieu, mais la fin propre du mariage, c'est l'amour des conjoints. Donc la fécondité vient en second lieu. Ça, l'Église le manifeste très nettement aujourd'hui. À un certain moment, on est mal compris saint Thomas, c'est vrai, par Suarez. On a mal compris ça devant. Alors on a mis la finalité première du mariage, c'est la fécondité. Non, c'est pas vrai. La fécondité dans la procréation implique le don des corps, oui. Cette raison de l'union d'une âme spirituelle unie substantiellement à un corps n'est-elle pas beaucoup plus forte et substantielle que celle de l'amour d'amitié et de l'art? Oui, c'est toute la question du corps. Lisez la thèse sur la liturgia. Alors vous aurez là le point de vue propre, le point de vue du corps, dans la connaissance symbolique. L'amitié est premièrement une relation personnelle. La relation personnelle, c'est premièrement une relation spirituelle. Si vous faites de l'amitié en premier lieu le don des corps, vous arrivez à une impasse. Ça, c'est sûr. C'est premièrement le point de vue spirituel. Et d'autant plus quand cette amitié est surnaturalisée par le point de vue de la charité divine. Le mystère de la charité divine, c'est de s'aimer comme Jésus nous aime. Et nous aime pourquoi? Pour que nous soyons des enfants bien-aimés du Père. Et nous sommes des enfants bien-aimés du Père en premier lieu par le don spirituel de nous-mêmes. Alors, le don des corps n'est quand même pas ce qui spécifie. Ça donne une modalité nouvelle, mais pas une nouvelle spécification. Ça, je crois que c'est très important, parce que c'est l'erreur d'aujourd'hui. C'est l'erreur du freudisme, si vous voulez. Pour le freudisme, le don des corps spécifie. Ton décor modifie l'exercice, ça c'est bien évident. Et très facilement, puisque ce don décor étant sensible et étant lié au point de vue sexuel, a un poids très grand. Et quand l'amour spirituel diminue, c'est cela qui l'emporte. Et c'est le drame d'aujourd'hui. Et tous les divorces viennent de là. Parce que la sensibilité s'use. Je vous ai dit, la sensibilité qu'on a à 20 ans et qu'on a à 45 ans n'est pas la même. Il y a 70 ans, Gourbi. Alors, si ça spécifie, il y a trois espèces de mariage. 20 ans, 45 ans, 70 ans. Ça explique des tas de choses, ça. C'est bête comme choudre, regardez ça. Mais on le voit tout de suite. Si on est freudien, je comprends très bien. Freud ne peut pas légitimer la fidélité dans le mariage. La fidélité ne regarde pas le point de vue de la sensibilité. La fidélité regarde le point de vue spirituel et divin. C'est là le point de vue de la fidélité. Ça, c'est capital de comprendre ça. Autrement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça modifie l'exercice, mais ça ne change pas la spécification. L'amour d'amitié est une amitié entre personnes humaines, mais pas individus. Quand on dit individu, on met l'accent sur le corps. Quand on dit personne, on met l'accent sur l'âme spirituelle. C'est le choix spirituel qu'on fait. Et on est lié à la même finalité. Spirituel de la personne. Oui, alors, quand vous dites, n'est-ce pas, cette raison d'union d'âme spirituelle à un corps n'est-elle pas beaucoup plus forte et substantielle que de l'amour d'amitié? Mais non, ma substance n'est pas premièrement mon corps. Ma substance est premièrement mon âme. Si vous mettez que votre substance en premier lieu sur votre corps, hein, là, c'est l'aspect générique qui l'emporte. L'aspect anima. Faut appeler les choses par leur nom. Et vous déraillez très vite. C'est pour ça que l'Église demande les fiançailles sans union sexuelle. C'est pour ça. Il faut le rappeler parce que les jeunes ne le comprennent pas, ça, aujourd'hui. On dit, ah oui, il faut quand même être sûr qu'il y ait une harmonie sensible et sexuelle. Voilà ce qu'on entend tout le temps aujourd'hui. Il faut pouvoir répondre. Et donner une réponse qui soit vraie et qui soit dans le sens de l'Église. Parce que c'est la vérité. Si l'Église demande des fiançailles, c'est pour que l'amour d'amitié se spiritualise. À 20 ans, chez des êtres vertueux comme vous êtes, donc à 20 ans, oui, vous comprenez que l'amour est d'abord spirituel. Mais des gens qui ne sont pas très vertueux, on ne peut pas ça du tout. Ils ont une peine énorme à comprendre que dans l'amour d'amitié, c'est le point de vue spirituel qui domine. Or, le sacrement porte sur l'amour d'amitié spirituel, qui ne s'oppose pas au sensible, mais qui l'assume. Et si le point de vue sensible domine, très vite, notre amitié ne sera plus une véritable amitié. Humaine. Tout simplement humaine. Mais, donc c'est très très important de comprendre ça aujourd'hui. Et l'Église est très nette là-dessus. Hein. L'éducation de l'Église est très très nette. Autrement, si vous prenez ça comme raisonnement, vous ne pouvez plus expliquer cette période des fiançailles que l'Église demande dans la chasteté. Et vous tombez dans la perspective freudienne d'aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas répondre. Vous serez coincé. Et je vous affirme, il y a eu à Fribourg le drame. Vous savez bien. Il y a eu un drame là-dessus. Quelqu'un qui a prêché ça à Berne, un dominicain. Il a dit aux mes parents, mais permettez qu'ils sont fiancés, et c'est normal, ils se préparent au mariage. Donc. Alors, justement, ça a fait. Et je comprends que c'est que qu'il faut être très net là-dessus. Parce qu'autrement, on ne comprend plus le sacrement. Oui. Donc il faut être très très net sur ce que c'est que la philia, l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, c'est une relation personnelle. Qu'est-ce que c'est que la personne? La personne assume le corps, et le corps est essentiel à la personne. On ne peut pas opposer personne et individu. Le corps est essentiel, mais il est second. Vous voyez? C'est toujours la question d'ordre. C'est pas le même ordre, hein? Entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain, au point de vue surnaturel, il y a un ordre. Dans l'amour d'amitié, l'âme et le corps sont tous les deux présents. Et tous les deux sont substantiels. Mais il y a un ordre. Et c'est premièrement un amour spirituel. De choix. Et les fiançailles sont faites pour ça. Étant donné le poids du sensible, surtout dans le monde d'aujourd'hui, vous voyez, où toute la... Le climat dans lequel on vit est érotique. Alors, parce qu'il est érotique, ben oui, c'est très difficile d'arriver à assumer le point de vue sensible et sexuel. C'est difficile, c'est évident. Ça demande constamment un effort. Il ne faut pas croire que cet effort étant fait une fois, c'est fini. Tout le temps, on aura à lutter. À cause et conséquence du péché originel. Qui fait que le poids du sensible et le point de vue sexuel risquent toujours de l'emporter et d'être premier et donc de spécifier, ne pas spécifier. Au point de vue humain et au point de vue divin. Il est toujours second. Ça, il faut bien, bien comprendre ça. S'il y a des difficultés là-dessus, dites-le tout de suite. Hein. Oui.
Oui, dans le mariage, la consommation du corps fait partie essentielle, tout simplement.
Oui, essentielle, mais pas premier.
Mais c'est ce qui fait que le mariage est pénalisé.
Et oui, mais c'est pas premier. Est-ce que vous arrivez à distinguer la différence entre l'âme et le corps? Est-ce que vous êtes d'accord que le corps est pour l'âme et non pas l'âme pour le corps? Bon, concluez. Voyez? Et je suis d'accord que dans le monde d'aujourd'hui, on n'est pas d'accord avec ce que nous disons là entre nous. Oui? La preuve, c'est que, je vous ai déjà dit, je ne dis pas assez qu'il ne sait pas la peine. Et il y a 2 ans, ou 3 ans maintenant, parce que ça s'ajoute, un groupe de jeunes théologiens laïcs m'ont demandé de leur expliquer la différence, le lien entre l'âme et le corps. Et ils ont conclu, on ne peut plus parler de l'âme spirituelle aujourd'hui. Ce n'est plus sur le marché. Et est-ce que pour vous, ce qui est sur le marché est la mesure de la vérité? Ah, ils n'ont pas pu répondre. Ils ont conclu, on ne peut plus parler de l'âme spirituelle. Tout est là. On ne peut plus parler de la personne. Comme la personne, c'est un tout. Dans le tout, vous noyez tout. C'est pour ça qu'on maintient la distinction de l'âme et du corps. Et l'Église maintient cela. Je ne peux pas être chrétien au sens fort et lucide si je ne maintiens pas la distinction de l'âme et du corps. J'ai dit ça à Lausanne, devant un professeur de philosophie qui lui était Merleau-Pontien. Oui, il dit ça, il n'y a plus de distinction de l'âme et du corps. Je crois que c'est un point sur lequel nous devons être très nets. Vous voyez? Parce que autrement, on ne peut plus. Et on remplace la distinction d'âme et du corps par le point de vue de la personne. La personne, vous pouvez la connaître au niveau psychologique. Mais qu'est-ce qui fait la personne? Si j'analyse, c'est quand même l'union de l'âme et du corps. Et l'âme est spirituelle, et c'est elle qui fait que le choix personnel est cela. Alors, je suis tout à fait d'accord, vous voyez? Je comprends très bien ce que vous dites. Je suis tout à fait d'accord que c'est substantiel. Le corps est substantiel. Et l'union des corps est substantielle au mariage. Tout à fait d'accord. Mais c'est pas premier. Sur quoi porte la grâce du mariage? Réfléchissez. Qu'est-ce que c'est que la grâce du mariage? C'est de sanctifier les époux. Est-ce que la sanctification des impôts est premièrement spirituel ou premièrement corporel? Oui. Dès que vous analysez, vous êtes obligé de préciser. Et je vous affirme que ça a énormément de conséquences dans notre pratique. La sainteté est premièrement spirituelle. Tout le grand traité de saint Thomas sur le mystère du Verbe incarné. C'est à cause de la mort que le Verbe est uni directement à la chair. Autrement, le Verbe est uni à la chair par l'âme. Il y a toute une question de saint Thomas là-dessus. Vous regardez ça avec beaucoup d'attention. C'est par l'âme spirituelle. Et ceci reste, je dirais, le point de vue profond de ce que représente l'exercice de la charité. C'est toujours par le point de vue spirituel qu'on s'aime. Alors, distinguons bien l'ordre génétique et l'ordre de nature. Ça fait partie de l'éducation, ça. Que dans l'ordre génétique, la sensibilité soit première. D'accord. Mais il ne faut pas que l'ordre génétique devienne l'ordre de perfection. Si l'ordre génétique devient l'ordre de perfection, on sait à quoi ça nous entraîne. Ça nous entraîne à des impasses. Mais c'est toujours la question du devenir et de l'être. Le devenir est premier et dans l'ordre génétique. Et l'être est premier dans l'ordre de perfection. Et le propre du freudisme, c'est de confondre les deux et donc de mettre le sensible avant le spirituel. Le spirituel n'existe plus en freudisme. Oui, donc c'est très très important ça. Et on doit tout le temps, hein, tout le temps rectifier. Et je vous affirme que quand on est, vous savez bien, quand on est avec des jeunes, c'est toujours ça qu'on doit rectifier. Non pas du tout pour supprimer le sensible. Non pas du tout pour supprimer le point de vue. Ce que représente le don des corps, pas du tout. Mais le rectifier de l'intérieur. Et comprendre que si il n'y a plus qu'une union sensible, je ne leur donne pas plus de 10 ans pour se séparer. Parce que le sensible s'use. La sensibilité, ça s'use. Si elle n'est pas renouvelée tout le temps de l'intérieur. Et la grâce regarde d'abord l'union spirituelle et par l'union spirituelle, le point de vue du corps. Est-ce que la fécondité biologique, spirituelle, artistique est la finalité de l'union du corps et de l'âme spirituelle? Voyez maintenant la réponse. Est-ce que la fécondité biologique, spirituelle, artistique est la finalité de l'union du corps et de l'âme spirituelle? La finalité de l'union du corps et de l'âme spirituelle, c'est l'amour. Ce n'est pas la fécondité. La fécondité est un fruit. Et le fruit n'est pas la finalité. Donc distinguons bien l'amour et la fécondité. Je dis distinguons, ne séparons jamais. Toujours la très grosse difficulté qu'on a, hein, parce qu'on est scotiste dès qu'on est fatigué. Et donc Scott, pour lui, distinction formelle est une séparation. Alors comprenons bien la finalité, la finesse de saint Thomas dans son analyse. Et la finesse de saint Thomas dans son analyse est justement de pouvoir distinguer les raisons formelles de la séparation. C'est pas commode, hein. Dès qu'on est fatigué, on ne voit plus. Fatigué intellectuellement, je veux dire. Et fatigué affectivement. Alors, il faut maintenir la distinction. C'est absolument nécessaire. Donc, vous voyez, la fécondité biologique n'est pas l'amour. La fécondité spirituelle n'est pas l'amour. La fécondité artistique n'est pas l'amour. Mais, l'amour, que la fécondité implique l'amour comme source. Je ne peux pas séparer. Si je sépare, vous voyez, je ne peux plus comprendre ce que l'Église demande pour la fécondité biologique. Dès qu'on sépare, immédiatement, on retombera sur un primat de l'efficacité. C'est ça qui est très curieux. Dès que vous séparez fécondité et amour, vous n'expliquez plus ce qu'il y a de propre à la fécondité. Et vous revenez sur le primat d'efficacité. Au point de vue biologique, au point de vue spirituel, au point de vue artistique. Alors les conséquences sont terribles. Il y a le primat des méthodes. Parce que le primat de l'efficacité fait qu'il y a un primat des méthodes en vue de l'efficacité. Et vous tuez l'esprit. Oui.
Père, ce fruit, cette efficacité, comment on doit l'appeler? Est-ce qu'on peut encore l'appeler fécondité ou
Toi, la paix, fécondité. Pourquoi ça vous gêne?
Non, mais il y a alors deux sens de fécondité parce que.
Mais non, la fécondité est analogique. Il n'y a pas de. Vous voyez, il y a fécondité biologique, fécondité humaine, fécondité spirituelle et surnaturelle, fécondité artistique. Je ne peux pas nier qu'il y a une fécondité artistique. C'est pas équivoque, c'est analogique. C'est un fruit. C'est pour ça que je dis fruit. J'aime mieux dire fruit qu'efficacité. Oui?
Oui, mais il peut y avoir alors fécondité sans amour aussi.
Ah, vous avez trouvé ça? Moi, j'ai jamais vu fécondité sans amour. J'ai vu efficacité sans amour. Donnez-moi un exemple d'une fécondité sans amour.
C'est ça que je veux pouvoir saisir, c'est. Par exemple, quand. Oui, est-ce qu'on doit alors l'appeler une œuvre au lieu de.
On doit l'appeler comment?
Une œuvre au lieu de.
Un fruit. J'aime mieux dire fruit. Il y a un mot. On peut dire fruit. Il n'y a pas du biologique, on comprendrait bien ce que c'est qu'un fruit. C'est pas une œuvre. Est-ce que l'enfant qui est conçu est une œuvre.
Non, mais
oui.
Quand il y a un fruit sans amour, on peut quand même concevoir cela.
Un fruit sans amour, ça peut exister dans le sens quand, de fait, il y a un viol. Oui. Il y a un amour d'un côté, passionnel, mais il y a un amour. Il n'y aurait pas de viol. La passion est quand même un amour. Hein. C'est un amour passionnel qui peut être une violence parce qu'il est passionnel. Il peut être monstrueux parce qu'il est passionnel et qu'il étouffe. L'amour spirituel, il y a quand même un amour.
Et pour la fécondité in vitro.
Ben oui. La fécondité artistique implique toujours un amour. La fécondité spirituelle implique toujours un amour. Dans les vies apostoliques, la fécondité divine implique un amour souverainement. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour celui qu'on aime. Oui. Toute fécondité implique un amour. Un amour imparfait, un amour monstrueux, mais un amour passionnel. Venez. Toujours. Il y a un fruit. L'efficacité peut très bien se séparer de l'amour, et pas la fécondité. Oui, c'est pour ça que je crois qu'il faut distinguer les trois. Il faut distinguer l'amour de son fruit et l'efficacité. Distinguons, ne séparons pas. Oui. Puisque la fécondité est toujours liée à sa source, l'amour. Ça vous fait une difficulté, ça?
C'est face à des objections, justement, un peu dans le sens de viol, mais alors de découvrir des situations où il n'y aurait pas d'amour et où il y aurait quand même une.
Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour spirituel, je suis d'accord. Mais il y a un amour biologique, il y a un amour passionnel. Vous venez. Distinguons l'amour spirituel, l'amour, je suis d'accord, c'est pas humain. Je suis d'accord avec vous. Mais n'oubliez pas que la fécondité est biologique. Et donc, elle est proche de l'instinct, elle est proche de la passion. Elle est biologique, elle n'est pas que biologique. Elle est humaine. Et dans le viol, mais la fécondité, hélas, n'est pas très humaine. Elle est passionnelle. Oui. Mais je crois que si on distingue bien, on peut très bien comprendre que toute fécondité implique un amour. Je ne vois pas de. Moi, personnellement, c'est pour ça que j'aimerais que vous. Si vous, ça vous choque, expliquez-moi en quoi ça choque. Oui.
parce qu'on regarde toujours par rapport à l'homme.
Parce qu'on est trop moral. Ici, je suis en philosophie. Oui. Et le philosophe montre que le point de vue moral est capital. C'est bien évident. Parce qu'il est humain. Et que le point de vue moral sauve le point de vue de l'homme. Mais que le point de vue de la fécondité est au-delà du point de vue moral. C'est pas le point de vue moral qui mesure la fécondité. Oui. Parce qu'alors, tout acte, tout viol serait infécond. On le souhaiterait. Mais je suis bien obligé de reconnaître que c'est pas comme ça que ça se passe. Oui. C'est là où on voit très bien que la moralisation n'est pas philosophique. Le philosophe précise le domaine moral. Il le précise. Où il y a le domaine moral ? Le domaine moral n'explique pas la vie. Il explique un aspect de la vie, mais pas toute la vie. Vous voyez ? Et c'est là où vous voyez la différence entre une moralisation et le point de vue philosophique. Et qu'on a terriblement besoin du point de vue philosophique pour ne pas tomber dans la moralisation. Et je respecte le point de vue moral, et je considère que le point de vue moral est supérieur au point de vue passionnel. C'est bien évident. Mais je vois aussi que la moralisation, quelquefois, est terrible. Vous voyez ? Parce qu'elle formalise un aspect de la vie et ça oublie de montrer la finalité propre. Je crois que la procréation ne peut pas s'expliquer entièrement par le point de vue moral. Voilà. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Essayez de préciser, si vous avez des objections là-dessus, de les préciser. Parce que c'est important. Vous voyez ? C'est important pour nous, et c'est important pour ceux qu'on verra ensuite. Surtout dans notre monde d'aujourd'hui. Dans notre monde d'aujourd'hui, je crois que dans tout ce domaine-là, il faut un regard philosophique qui permet tout le temps de toucher directement. Je vous ai déjà rappelé cet exemple. C'est à Fribourg. Qui était merveilleux, c'est un Français, merveilleux. Dans... Il avait des alliances avec la Suisse et avec Fribourg, c'est pour ça qu'il venait de temps en temps. Qui avait fait le maquis, qui avait été un héros pendant la guerre. Ça, tout à fait d'accord. Mais alors, vous savez, quand on a un héros du maquis, après, le maquis se retrouve à un autre niveau. Alors, c'était un Don Juan. Qui faisait des choses terribles. Et ceux qui le connaissaient bien m'avaient dit, il vous aime beaucoup, vous êtes le seul à pouvoir lui parler. Et lui dire qu'il arrête ce jeu. Alors, comme c'était un bonhomme que j'aimais beaucoup, c'est vrai, je l'aimais parce qu'il avait beaucoup de caractère. Il avait été un héros pendant la guerre. Et après la guerre, son héroïsme n'était plus tout à fait le même. Donc il était dégradé. Il fallait pouvoir lui parler un langage d'homme à homme. Surtout pas moral. Il m'aurait renvoyé sur les plates-bandes. Là, je lui parlais ce que c'est que l'amour. Là, il a eu tout pénible. Mais vous connaissez rien là-dessus. Je lui dis, ah, j'en connais bien plus que vous. C'est vous qui ne connaissez rien là-dessus. Pendant une demi-heure, on a discuté ferme. Et il fallait pouvoir lui tenir tête, lui montrer qu'il ne comprenait rien et qu'il massacrait. Et que ce n'est pas ça l'amour. L'amour sauve. Et épanoui. Alors après, il dit, c'est vrai, je reconnais. Et merci de ce que si on aime le Christ, on devient, c'est ce que l'Église dit, l'Église est maîtresse dans l'ordre de l'amour, elle l'a dit. Paul VI l'a dit dans l'ONU. Point de l'éducation, point de l'éducation de l'amour. Et on doit pouvoir comprendre que si on est chrétien, on peut parler d'une manière extrêmement forte de ce mystère de l'amour à tous les niveaux. Mais il faut faire attention, pas faire de gaffe. Et là, la philosophie nous aide énormément. Parce qu'elle fait des distinctions. Alors que la passion ne fait aucune distinction. Et on est dans l'imaginaire. Et alors, il faut pouvoir, si on a une véritable expérience de l'amour divin, on a l'expérience la plus forte de l'amour. Et c'est pas pour rien que la révélation parle de l'amour de l'époux et de l'épouse. C'est pas pour rien. Vous voyez, c'est analogique. Et c'est vrai. Et qu'il y a une fécondité divine plus grande que n'importe quelle autre fécondité. Et que cette fécondité divine, on doit la découvrir. Oui, elle n'est pas l'amour, c'est autre chose. Elle est liée. Le corps a-t-il un rôle à jouer dans la fécondité spirituelle? C'est sûr, tout amour est lié au sujet. Je ne peux pas aimer sans que la personne soit concrètement individualisée. L'amour, c'est l'amour de la personne, du support que nous adorons. La faculté propre, la puissance propre de volonté spirituelle, d'appétit spirituel, ne peut pas s'exercer sans la passion. Vous voyez, il y a deux problèmes parallèles qui sont toujours très importants à voir. La connaissance spirituelle est toujours liée à l'image. Mais comprenons bien, elle est toujours liée à l'image, mais elle n'est pas toujours spécifiée et déterminée par l'image. L'image est du côté du conditionnement. Parce que la connaissance spirituelle, donc l'intelligence, primo cadit in intellectus, ens, hein, n'oubliez jamais ça. Ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est ce qui est. C'est l'être. L'être n'est pas lié à l'image. La spécification de l'intelligence est au-delà de l'image, donc au-delà du corps. La spécification de l'intelligence. Mais l'exercice de l'intelligence est toujours lié à l'image. Vous voyez, petite distinction qui est capitale et qu'on ne fait plus dans la philosophie husserlienne, qu'on ne fait plus dans la dialectique. Et donc en faisant cette distinction, il faut bien se dire qu'il faut toujours bien, bien préciser et ordinairement essayer de la faire comprendre à ceux avec qui on est. Lorsqu'il s'agit de l'amour, acte volontaire, amour spirituel. L'amour spirituel est toujours lié dans son exercice au corps. Oui, l'analogue et l'image. Toujours. Je ne peux pas aimer sans mon corps. Moi, je t'aime beaucoup de façon tellement forte que c'est purement spirituel. Et là, mon corps, il est là. Je te demande. Ça serait cartésien. Ce serait Descartes. Le corps est une mécanique. On la remonte de temps en temps pour qu'il vive. Non. On aime avec tout ce qu'on est. Mais avec un ordre. Vous comprenez? Mon amour spirituel regarde la personne en premier lieu. Et dans la personne, c'est l'âme spirituelle. Mais cette âme est incarnée dans un corps. Elle implique un corps. Donc en aimant la personne, j'aime son âme et son corps. C'est bien évident. Et si je veux aimer d'un amour spirituel, qui reste un amour spirituel, c'est toujours l'âme spirituelle que j'aime en premier lieu. C'est pas le sensible qui est premier. Le sensible, du côté de l'exercice, peut avoir été la petite flamme. C'est très vrai. Donc, point de vue éducatif, sensible peut être premier. Mais il n'est pas premier si je veux comprendre qu'est-ce que c'est que cet amour spirituel volontaire. C'est vraiment l'autre qui implique le point de vue de l'âme spirituelle que j'aime en premier lieu. Donc vous voyez la question, le corps a-t-il un rôle à jouer dans la fécondité spirituelle? C'est bien évident. Je dirais dans tout amour spirituel. Et dans la fécondité spirituelle également. C'est impossible. Je ne peux pas séparer ce que Dieu a uni. Mais je distingue. Ah oui. La fécondité spirituelle est au-delà du point de vue du corps. Au-delà. Et le corps est présent. Je ne peux pas déposer mon corps dans un petit cachot. Aujourd'hui, je fais un exercice spirituel. Je serai un apôtre au plein de fécondité spirituelle. Alors mon corps hein, reste là. Vous prêchez, vous enseignez avec votre corps. La preuve, c'est quand on n'a plus de voix, on le sait. Très bien, plus avoir de voix, plus avoir qu'une voix spirituelle. Oui. Ce serait merveilleux. Plus un organe. Non, c'est tout l'individu qui prêche. Mais c'est évident, on le sait bien, que l'Esprit Saint se sert de nous comme d'un instrument. Il se sert d'abord de notre âme et de notre corps. Les liens entre la pilule et les méthodes naturelles de régulation des naissances. L'Église a toujours bien distingué les deux. L'Église demande qu'on connaisse les méthodes naturelles de régulation, de fécondité. Je dirais de fécondité. Parce que en réalité, c'est des périodes de fécondité. Pas de naissance. Tandis que la pilule est une intervention extrinsèque, donc artistique, qui vient arrêter quelque chose qui est naturel. C'est pour ça que l'Église dit non. Je n'ai pas le droit d'arrêter, mais j'ai le droit tout à fait d'une connaissance plus parfaite du corps humain et de ce que représentent les périodes de fécondation. Tout à fait normal. Le tout, c'est de s'en servir pour une fin qui soit honnête. Faut pas croire du fait même que je me sers pas de la pilule, tout est permis. Ah, pas du tout. C'est toujours en vue d'une fin honnête, c'est-à-dire un amour spirituel. Je n'ai jamais le droit uniquement de m'arrêter à la jouissance. Jamais. Toujours un amour spirituel. Vous voyez ? Alors, le point de vue de la finalité qui justifie les moyens, ce serait justement de dire, je me sers de la pilule, la fin est bonne. C'est pour s'aimer. Non. On ne peut pas employer n'importe quel moyen. On n'a pas le droit de ne pas de violenter le point de vue naturel. Le point de vue biologique naturel, on doit l'assumer. C'est pas la même chose. Hein. Le violenter, c'est aller contre son ordre naturel. Tandis qu'au contraire, l'assumer, c'est le connaître en vue d'une fin qui soit spirituelle. Mais c'est là l'éducation de l'amour. Hein. Non, très bien. On va arrêter, on va continuer ça tout à l'heure. C'est bien, ça vous oblige de réfléchir là-dessus.